que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur
d'onde. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Allô tout le monde! Présente! Nous sommes toutes présentes pour l'émission Trait d'Union qui aujourd'hui traite de l'absentéisme dans les classes de cégep, mais aussi dans les commerces, les organismes, les restaurants, partout, hein, il semblerait. En tout cas, il y a une nouvelle chroniqueuse qui se joint à nous. En fait, il y en a deux qui se joignent à nous aujourd'hui. Il y en a une qui revient tout juste d'une épopée qui a rempli son baluchon de reportage qu'elle va partager avec nous et qui vont alimenter nos sujets et thèmes qui seront abordés. Et il y a aussi une autre qui vient faire son tour, qui sort de sa Gaspésie pour venir nous voir de temps en temps. En fait, c'est pas sa Gaspésie, elle est...
Néo-Gaspésienne.
Néo-Gaspésienne, c'est ça. Et puis, donc, je dis bonjour à Béatrice.
Bonjour tout le monde.
Ça va? Écoutez, on a eu 3 secondes d'écart pour s'installer. Bonjour Béatrice.
Bonjour et merci.
Béatrice,
de...
oui, oui, oui.
Ben oui, ben écoutez, bonjour tout le monde et puis c'est un plaisir d'être ici, merci de m'accueillir.
Ah, ça fait plaisir, t'as pas idée. Et puis, bonjour à Dorothée.
Bien, bonjour, un grand plaisir d'être là aujourd'hui.
Et puis il y a France Drouin qui est avec nous également.
Allô Louise, allô tout le monde.
Fidèle à toutes les semaines. Et Ariane.
Allô.
Ariane qui va commencer ce sujet-là.
Ah oui, ouais, c'est moi qui commence.
Ben oui, c'est toi qui commence.
c'est moi qui est controversiale en plus aujourd'hui.
Ben oui, c'est pour ça que je t'ai gardée à la fin parce que là, je veux que tu te... Comment dire? Tu nous mettes dans le bain. Je dois dire que le sujet est venu d'un article que j'ai lu dans un journal. Et puis, j'ai fait le tour auprès des profs de cégep que je connais, auprès des étudiants de cégep que je connais. Et j'alimenterai ici et là vos commentaires, les chroniques de l'une des... En tout cas.
On se comprend.
On se comprend. Alors, on y va tout de suite avec ta chronique, okay. Ma chère Ariane.
Bien, moi, je travaille dans le milieu scolaire on et off depuis à peu près 10 ans. J'ai surtout des postes dans le secteur de loisirs et d'intervention, mais j'ai aussi fait beaucoup de suppléances. J'ai travaillé au public comme au privé et au semi-privé. Je travaille à Montréal, dans les Laurentides, au primaire, secondaire et même au collégial. Je suis aussi une étudiante depuis toujours, très impliquée dans la gestion de dossiers académiques, des fois malgré mes études, comme la liberté académique, le comodal, la gestion des grèves, les révisions de programmes ou encore les fameuses PIA, Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, ou PDA, Politique départementale des évaluations d'apprentissage, sans oublier les enjeux de santé mentale et naturellement les parents étudiants. Parce que moi, quand il n'y a pas assez de choses dans mon assiette, j'en rajoute. finalement, je suis aussi une étudiante qui est neurodivergente, avec une tonne de suivis médicaux. J'ai droit à plusieurs adaptations au courant de mon parcours scolaire. Entre autres, cette année, dans mon dossier, c'est marqué que je peux manquer autant de cours que je veux sans pénalité.
La chance!
Donc, je m'y connais aussi un peu quant au service offert à la population étudiante. Fait que vous devez vous douter là, que j'ai 1 tonne et 3 quarts de choses à dire sur l'absentéisme et la notion de participation en classe. Personnellement, je me suis jamais cachée. Je suis en faveur d'un système scolaire collégial universitaire sans pénalité pour les absences ou pour la participation. Mais là, inquiétez-vous pas, là, j'ai quand même pris le temps de bien décortiquer mon argumentation parce que je voulais être prête. Donc, au début, je pense qu'on généralise... Je ne veux pas trop généraliser, mais on maternise beaucoup nos étudiants et étudiantes. Puis je pense qu'il y a aussi une forme de responsabilisation qui doit avoir lieu au cégep ou à l'université. Puis cette responsabilisation-là doit avoir lieu sans avoir une forme de conséquence parce qu'ils ne viennent pas en cours. Tu sais, si une personne manque des cours mais qu'elle ne comprend pas le contenu de la classe, c'est un peu son problème. Puis au final, elle va quand même échouer. Tu sais, fait qu'on va quand même lui enlever des points dans sa note globale liée à sa participation en classe parce qu'on mesure qu'elle n'a pas, elle n'a pas acquis la, l'objectif, tu sais. Fait que pourquoi enlever des points en plus pour la participation? On peut pas juste évaluer ce qu'on voit comme contenu. Aussi, pour les personnes qui sont dites surdouées, qui n'ont pas toujours accès à des diagnostics, bien, elles peuvent venir ou pas venir en classe sans avoir à se sentir impatient ou en colère parce que la le reste de la classe ne suit pas assez rapidement ou les trucs se passent très lentement. Moi, je fais de la douance, mais je ne fais pas de la douance parce que c'est un état, ce n'est pas un diagnostic, mais je suis diagnostiquée avec de la douance. Puis souvent, en classe, ce qui arrive, c'est que je trouve ça très long. Puis je trouve ça très long, puis des fois, je vais plus vite que le reste de la classe. Et là, mes enseignantes me disent « Ariane, tu es trop loin ». Puis ça arrive avec une forme aussi de colère et d'impatience qui après peut se montrer auprès de mes camarades, qui heureusement m'apprécient beaucoup parce que je suis amicale, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une aimabilité aussi grande que la mienne. On va dire ça de même. Puis sinon, mais il y a aussi des personnes avec des enjeux physiques ou mentaux, puis ou simplement des parents là, qui des fois n'ont pas vraiment le choix de respecter certaines limites. Des fois, ton corps ne peut plus suivre pour aller comme 5 jours à l'école de suite où ton cerveau y arrive pas. Puis, des fois, ton enfant est juste malade. Puis, de perdre des points parce que comme il y a des situations que tu peux pas contrôler, je trouve que c'est un peu dommage. Aussi, dans les dernières années, on voit beaucoup une culture de on va enlever un petit peu les limites de temps, on va donner plus des objectifs à la semaine dans le secteur entrepreneurial. Puis, ça vient avec une nette amélioration de la santé mentale, mais aussi des performances globales des différents employés. Là, je sais que le milieu entrepreneurial et l'école, ce n'est pas exactement, le milieu scolaire, ce n'est pas exactement la même chose. Par contre, je pense que l'un peut servir à l'autre et s'apprendre. Puis, avec la pandémie, heureusement, je pense qu'on a été obligé un peu de parler de la manière dont notre système scolaire fonctionnait. Puis, on a été un peu obligé d'être créatif puis de découvrir de nouvelles manières de l'adapter pour avoir une éducation plurielle. Puis je pense qu'au final, là, c'est vraiment ça qui est important. C'est de pouvoir offrir à une multitude d'étudiants et étudiantes des services adaptés selon leurs besoins. Puis une des premières étapes pour faire ça de manière macro, c'est enlever les points de participation puis d'absentéisme. Voilà! C'était ma thèse sur pourquoi il faut enlever ces points-là.
C'était excellent. Et puis, c'est pour ça que l'émission existe, pour que ma génération vous écoute. Parce que c'est certain que plusieurs vont sortir, parce que je l'ai entendu maintes et maintes fois, « Bon, les enfants impériaux des enfants rois, ont créé ces enfants-là qui « Ah ben là, écoute, moi. » Tu sais qu'on va l'entendre, mais c'est pour ça qu'on fait ces émissions-là, pour qu'on vous entende, puis c'est plus comme c'était. On n'est plus les enfants qui se faisaient, frapper, même, non. À mon époque. Pour ceux qui se tiennent tranquilles, c'est fini ce temps-là.
C'est fini, puis on parle beaucoup plus de la gestion de ses propres émotions, puis de la gestion de son propre temps. Puis je pense, moi, dans ma technique, on me disait souvent « gère-toi », de manière très bienveillante. Là. Ouais. J'adore toutes mes profs, mais je pense que c'est un peu ça, le collégial puis l'universitaire. Il faut que tu te gères.
Ouais. Puis là, on va entendre Émile Bilodeau, qui, lui, est épuisé, gang.
Je comprends.
Je parais ça, c'est tout. Les deux yeux dans le même trou. Ça me tente pas de travailler, me contente de chioler. C'est pas très noble comme réveil, mais je m'en vais à job pareil. Puis je me dis tout le temps que j'ai que je suis épuisé, épuisé. Ça va mal le matin dans ma salle de bain. Une fois rentré dans la douche, c'est là que moi je me recouche. Les chaînes d'eau, c'est une couverte qui soit
soit chaud ou ben frette. Shampoing, c'est un oreiller. À quel point je suis fatigué. Après m'être grossé dedans, mais je vais me brosser les dents. Puis j'oublie déjeuner, j'haïs mes matinées. C'est pas très noble comme réveil, mais je m'en vais à job pareil. Oh, puis je me dis tout le temps que j'ai pas dormi assez longtemps. C'est que je suis épuisé. Et puis tu sais. Et puis tu sais que je suis épuisé. Faut que je prenne mes pilules en pleine canicule. Mon mal occidental, c'est quelque chose de bien normal. Je dois rester sous mon toit pour résister au froid. Je sais que j'ai le droit d'être fatigué des fois. C'est pas très noble comme réveil.
Eh oui, c'était... Hein? Ben c'est ça, c'est dur de se lever pis ça, pour des jobs plates. Mm. Puis justement, un job, on va en parler avec France.
Ben oui. Écoutez, moi, je vais vous parler de l'engagement dans ma profession.
Ouais.
Bon, là, je suis retraitée, mais j'ai travaillé pendant 46 ans dans les CPE.
C'est quelques années d'expérience, ça.
C'est pas mal, quelques années d'expérience. Hein? Alors, dans ce milieu où je travaillais avec des humains, des petits et des grands, il était surtout important de se sentir impliqué, faire partie de la famille, adhérer à la philosophie du milieu, puis y croire. Appliquer demande de l'inspection. Le comité pour les jouissances, les instruments de musique empruntés pour pas tout le monde avoir le double dans nos locaux. Le comité social, qui était très important pour pouvoir un peu reconnaître les éducatrices de temps en temps, puis leur faire des petits cadeaux, puis des petites douceurs. Je ne comptais pas mes heures. Je sentais que je faisais partie d'une... je faisais une différence dans mon travail et celui de mes collègues. Bien sûr, j'ai travaillé en équipe, où chacun avait son implication puis son rôle à jouer. Cette implication, je la dois aux équipes de direction qui m'ont fait confiance. Ils m'ont appuyée, aidée avec les moyens... Des moyens pour... Ouais, parce qu'on manquait de budget.
Ben, c'est ça.
Quand on sert aux critiques, c'est qui j'ai collaboration. J'en viens à l'engagement. Souvent, ceux qui critiquent ne s'impliquent pas, ne s'engagent pas dans les projets, dans leur milieu de travail. C'est facile de critiquer quand on ne s'y mouille pas.
Tu l'as... vécu, tu l'as vu, maintes et maintes fois dans tes 40-quelques années, tu l'as constaté,
Puis, tu sais, quand tu t'impliques, bien, naturellement, tu reçois des critiques, puis des fois, c'est pas des critiques le fun. Mm-hmm. Puis, un milieu de femmes, on s'entend ce que c'est.
Ah, bien, la switchabiche, comme on dit.
Oui, c'est ça. Alors, un autre phénomène que j'ai remarqué, et surtout avec la pandémie, ce sont les nouveaux qui arrivent dans ce milieu. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils aient des études ou non, ou qu'ils fassent partie du service de remplacement des CPE, lorsqu'on trouve quelqu'un, les exigences, ils sont comme, par exemple, « Bien, je peux pas faire plus que du 7-4, je veux travailler juste avec les 4 ans, je veux prendre un congé tel jour. » Vous savez ce qui arrive à ce moment-là? Bien, comme on n'a pas le choix parce qu'on manque de remplaçants, bien, les plus anciens qu'on pense. Beaucoup d'épuisement dans ce milieu qui n'est pas encore très valorisé, je trouve.
Non. Un milieu de femmes?
Oui.
On y reviendra là-dessus. Mmh.
Donc, en résumé, l'engagement pour moi se résume en une promesse de loyauté associée à un sentiment d'appartenance et d'attachement envers son milieu de travail. L'empathie et la collaboration font partie des critères d'embauche, selon moi. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très centré sur nos petits besoins et on oublie que l'on vit en société. La petite enfance, ça fait partie du trois quarts de ma vie et on a toujours dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mm-hmm. Si on veut que ceux-ci s'intègrent et s'impliquent dans la société, il faut leur ouvrir le chemin, car c'est avec l'exemple qu'on apprend. Mm-hmm. Petite question en terminant que je me pose. Je serais curieuse de savoir, dans le nombre de personnes qui s'impliquent dans leur travail, la proportion de ceux qui ont fait du bénévolat, soit dans le domaine sportif, social ou autre. J'ai fait tout au long de mes études secondaires et cégep autour de 600 heures de bénévolat auprès des personnes handicapées intellectuelles. Puis je pense que ça aide à s'impliquer dans notre travail quand on est passionné par quelque chose où on donne de soi sans avoir en retour un côté monétaire.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Ouais, ça éveille ça.
Oui, tout à fait.
Mmh. Ben, coudon. Je sais pas si Titom va pouvoir répondre à ça avec la réussite.
Jacques Prévert avait raison. C'est pas une vie. Et donner la sienne à son patron, c'est vraiment tout, sauf de la poésie. Levé de bonne heure, j'allais à la conquête du monde, élaborant des plans dans la terre, un rapport élogieux de mes rapports avec la NPE. J'avais un pied dans la zic, l'autre dans l'esprit de la cédique, que j'aurais dû faire gangster, enfin dans l'acier, et le cœur en plastique. Tic 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 tic, j'ai pris le tic pour la gloire. C'est lui qui tue les voyageurs, les clous sur le banc des 35 heures. Depuis ma vie est une machine, depuis je fais partie. J'ai tronqué ma vie et ta gamine contre un joli bleu de travail. Je pousse, je tire et je prends la fuite derrière des cartons en pagaille. J'en grille une à la réussite, à mon évolution sociale. Fin de semaine, plus d'horaire, plus de patron qui n'est jamais content de ce que je fais. Non, fini les palettes, ranger l'adhésif à mon écoute. ma candidature spontanée pour aller vers des jours meilleurs. Tous mes sentiments distingués en l'attente d'une réponse de votre cœur.
On est donc de retour à Très Union. Et oui, c'est moi qui fais le retour en onde. Je trouve ça bien spécial. On va continuer avec Béatrice Grand...
Grand A.
Grand A. J'avais grand G dans tête, puis je suis comme, non, c'est Hermione. Mais tu vas nous parler de ton reportage, mais pas que de ça, en fait.
Oui, en fait, donc, moi, je reviens de 2 mois de reportage. Je suis allée faire le tour des plusieurs régions du Québec pour aller visiter, en fait, des lieux de vie alternatifs et des milieux de vie alternatifs. Donc, j'ai fait ça pendant 2 mois. Et mon premier reportage m'a emmenée, en fait, au Saguenay. Plus précisément au Petit Saguenay. Et au Petit Saguenay, fin août, s'est tenu un festival, le festival Virage, qui est en fait le renouveau d'un autre festival qui avait lieu à Sainte-Rose-du-Nord, qui s'appelait le Folk Salle.
Sainte-Rose-du-Nord.
Et oui, en fait, c'était un festival connu pour sa décroissance, sa transition intérieure, sa transition humaine. Et pendant ces 3 jours de reportage, j'ai fait la rencontre d'une famille qui m'a vraiment touchée. Et ça a commencé par Clara qui a 15 ans. Et c'est une jeune fille qui habite à Québec. Et Clara, je l'ai rencontrée dans un atelier donné par une dame qui s'appelle Maude Prudhomme, qui est connue dans le milieu aussi de la décroissance. Mmh. Et c'était vraiment un atelier sur, tu sais, la communication non violente. Et puis, on était tous en cercle. Et puis, Clara, elle était comme accompagnée de ses amis, aussi 14, 15 ans. Mais ses amis, ils étaient comme en ligne. Ils étaient à côté, au mur, tu sais. Puis, ils étaient comme dans un espèce de fou rire. Pendant à peu près, je te dirais, 30 minutes d'atelier. Puis, pendant que nous, on s'enracinait vraiment dans la communication non violente. Puis à un moment donné, Clara...
Vous êtes toutes devenues violentes.
Non, c'est ça. En fait, Clara, qui était comme à 2 sièges à côté de moi, et je la vois, elle se tortillait sur son siège et tout. Puis à un moment donné, elle tape du pied, puis elle dit « Oh merde, Zoé, tu m'énerves! Si c'est là, si t'es là pour faire la gamine, ça, c'est pas la peine de rester. Est-ce que tu peux partir? Moi, j'ai vraiment envie de profiter. » Et à ce moment-là, il y a comme un blanc qui s'installe. Son amie prend la parole, elle dit « Ah ouais, non, désolée. » Donc, ils partent. Et puis, l'atelier continue. Puis, je vois Clara, tu sais, qui se terre dans son siège et tout ça. Puis, en fait, à la fin de l'atelier, je vais la voir. Et puis, je lui dis « Tu sais, meuf, je te trouve courte. Tu t'es respectée. » Puis là, elle me fond en larmes dans les bras. Et puis, là, elle m'a dit « Mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai l'air bête parce que c'était un atelier sur la communication non violente. » Je suis mise à crier, puis j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend en communication non violente. Et je dis, mais non, en fait, t'as nommé tes besoins, puis je te trouve super fière et tout. Et donc, moi, c'est comme ça qu'a commencé mon amitié avec Clara. Et le lendemain, plus tard dans le festival, je vais au quai, parce que tu sais, il y a le fjord au Petit Saguenay. Et puis là, je me dis, vas-y, j'affronte ma peur et je vais sauter au quai. Et puis, qui je retrouve? Je retrouve Clara en maillot de bain qui venait de sauter. Et Clara était avec sa maman. Puis elle me présente sa maman. Puis pendant une demi-heure, en fait, moi, j'ai la peur du vide. Puis elle me soutenait. Puis on était comme 3 grâces à se faire des câlins et tout. Et bref, sa mère me dit, écoute, Béa, qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui explique mon reportage. Voilà, je suis en visite et tout. Puis, elle me dit, tu sais, si tu as besoin de passer à Québec, passe à la maison. Parce que nous, on nous a aidés quand nous, on était jeunes avec mon mari. Donc, c'est à nous de tendre la main maintenant aux jeunes. Donc, si tu veux venir à la maison, viens. Et en fait, j'ai passé 4 jours chez eux. Puis, donc, j'ai plus découvert Clara. Et Clara, elle a aussi une sœur qui s'appelle Léane. Elle a 18 ans. Et vraiment, je tiens à dire que ces deux filles... Enfin, waouh, j'aurais aimé que ça soit mes amis quand j'avais cet âge-là. Ces deux filles qui m'ont vraiment donné du... Enfin, elles sont bonnes, quoi. Elles sont vraiment engagées. Elles font toutes les deux de la politique à leur manière. Elles ont beaucoup de groupes d'amis. Puis elles font comme plein d'activités. Enfin, voilà, c'est une forme d'engagement, je trouve, qui est vraiment incroyable, quoi.
Ouais, ben, je suis assez active sur la scène... militante de Montréal, on va dire, mettons. Puis, je trouve qu'il y a un beau renouveau, surtout en lien avec les enjeux de décroissance et d'environnement, là, de la part des jeunes.
Ouais.
Puis, sincèrement, des fois, dans le mouvement étudiant, je trouve que si on n'avait pas cette présence-là de jeunes de 16, 18 ans, justement, pour nous rappeler que, comme, hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on en a déjà parlé l'an passé, mais en début de saison, je crois, avec Alexis, qu'on disait qu'on était la génération désillusionnée. Ouais, bref, ce mot. mais cette génération-là est vraiment là pour nous ramener. Puis comme essayer de remettre en place des trucs au niveau de la politique, je trouve ça super intéressant. Mais
clairement.
C'est en lien avec la semaine de la rage climatique là, cette semaine, ouais. Mais tu sais, on va pas s'attarder trop là-dessus. Mais je trouve que cette génération-là aborde la militance d'une manière tellement différente.
Oui, mais je te dirais, la militance, mais aussi quand je leur pose des questions, comment tu vois ta vie plus tard, comment c'est est-ce ça. Que tu veux vivre, en fait, c'est assez clair dans leur tête. Moi, j'en étais absolument pas rendue là, à cet âge-là, et eux, ils ont comme groundé, et ils sont comme sûrs d'eux. Il y a moins de questions qui se posent dans leur tête, quoi.
Je suis vraiment d'accord.
Mais c'est comme, il y a un clivage quand même, parce que quand j'ai interrogé les profs de cégep, les cégepiens, ça dépend beaucoup du milieu d'où tu viens. Est-ce que c'est un milieu qui est porté vers la culture, l'éducation et tout ça, ou est-ce que c'est un milieu qui, ben là, l'entreprise familiale a besoin de toi ou le milieu familial a besoin de toi? C'est parfois le travail qui est important et de, parfois...
Mais en socio, on a une théorie qui s'appelle pas juste en socio, en psycho aussi, mais il y a le référencement social, en fait. Puis en fait, comment tu crées tes références autour de toi pour bâtir ta propre identité selon justement ce que tu as vécu, puis les notions qui sont importantes. Ouais. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si le travail prend plus de place ou l'engagement. Puis, tu sais, tu parlais de faire du bénévolat tantôt, France. Oui. C'est vrai, là. Tu sais, moi, je travaille à l'international un bout, puis c'est une obligation de faire du bénévolat au moins 40 heures par année.
Oui, il y a des écoles comme
ouais,
ça. Oui,
c'est
hein.
ça.
Sans ça, t'as pas ton diplôme.
Oui, c'est ça.
Hey, Dorothée veut dire quelque chose.
ben ouais. Mais c'est un peu pour se revenir sur, en fait, les trois choses qu'on vient d'entendre. Donc, autant Ariane que
France.
Que France, j'ai oublié son nom, et que Béa. Mais c'est en fait, je vis un profond malaise du fait que, oui, l'engagement et tout ça, mais j'ai de la difficulté au fait qu'on remet pas le système en question.
Ouais.
Moi, c'est ce qui me rend profondément malaisée, du fait que je pense qu'il faut... Oui, il faut parler des étudiants et étudiantes, en fait. Tu sais, il y en a qui sont obligés... On est dans une période d'inflation, de crise du logement. Il y en a qui sont obligés de travailler 35 heures semaine pour pouvoir aller à l'école. Donc, il y en a qui font pas ça. Je veux dire, on remet toute cette responsabilité-là sur les étudiants et étudiantes ou sur les travailleurs travailleuses, alors que notre système... pour moi, est profondément malade et on remet jamais ça en question.
Absolument, tout part de là.
Et j'ai un profond malaise, justement, avec cette culture-là de faisant plus, de performance. Et je suis pas en train de dire, engageons-nous pas, de pas s'engager dans nos communautés, de pas faire du militantisme et tout ça, mais de pas penser, en fait, aux personnes qui sont derrière, de penser aux humains. Puis oui, penser l'engagement, être présent et tout ça, mais remettre en question vraiment cette culture-là de la performance, d'être toujours présent. Puis moi, en tout cas, je me posais des questions justement quand j'étais moi-même étudiante, il n'y a pas si longtemps que ça, sur la pertinence de continuer ce système-là alors qu'on est dans des crises dont j'ai nommé l'inflation, j'ai nommé la crise du logement, grosse crise climatique et tout ça. Je pense que c'est vraiment important de se poser des questions sur ça et de remettre en question ce système-là. Oui, on parle du care, on parle d'être là pour les autres, mais il faut vraiment prendre soin de cette société-là et de toute humaine qui est
là. Moi, je te file, Dorothée, mais quand j'étais plus jeune et j'avais l'âge de Clara, 15 ans, j'étais comme vraiment révoltée contre le système et je voulais vraiment faire beaucoup de choses pour le changer. Et j'ai vécu comme un énorme essoufflement. Ça marche pas. Et en fait, je me sens mieux dans ma vie depuis que je m'implique sans regarder le système que quand je faisais l'inverse.
Mais je vais vous laisser quelques minutes aussi. Après les pubs, gang. Faut aller vers les pubs. Hey, ça fait une demi-heure qu'on roule, là.
Wow.
Puis on revient. Je vais vous laisser quelques minutes, mais on n'en aura pas beaucoup. Désolée.
Allez, let's go la pub.
Ouais.
C'est parti pour la 8e édition du Festival international d'humour africain Afrikiri. Les 6 et 7 octobre au Patrouvillerie à Montréal, amène tes amis ou la famille et viens rire aux éclats avec les grands noms de l'humour africain et la belle relève d'ici. Afrikiri, c'est 2 jours de spectacle, une dégustation des mets et boissons africaines pour pas cher, une ambiance festive avec DJ, mais surtout des faux rires garantis. Prends ton billet maintenant au www.afrikiri.com.
Les Ours d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal qui met en lumière les figures de la musique arabe, qu'il s'agisse de chanteurs, compositeurs, poètes et écrivains. Ce programme vise également à clarifier les formes musicales arabes et inclut une station qui parle de musiciennes et de musiciens les plus importants du monde arabe et leurs compositions. Trésor d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
Attention, mi gente, este party está totalmente lleno y la gente me está pidiendo la remezcla desde el bloque FM.
Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal Pal Mundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal.
Es una cita con Dimensión Latina.
CIBL 105.
Oui, t'as faim que vous allez... Oups, là! C'est arrivé. On est de retour, donc, à Trait d'Union. Vous venez d'entendre un mix. C'était la prof Lacaze qui finissait avec la Bolduc, mais juste avant, c'était un groupe, une musique qui s'appelle... Tu...
Girondette.
Je ne me rappelle pas. Ce n'est pas écrit sur ma feuille. Tarpinouche de Tarpinouche. Je vous reviendrai avec ça. Je vais faire ma recherche tantôt. Fac. Ah oui, c'est Elle me tue. C'est le nom.
Oui, c'est Elle me tue, c'est ça.
Elle me tue. Elle me tue, oui.
C'est vrai.
Oui, j'ai trouvé ça sur Bravo Musique, parce que je me suis abonnée à ça.
Bravo Musique, c'est une bonne initiative, d'ailleurs.
Et la toune s'appelait « J'irradie par mon absence mm-hmm. ». Tu sais, tout est dans tout, hein, le show. Quand même. C'était, puis, donc, La Bolduc à la fin, qui est remixée par Prof Lacaze dans un album qui s'appelle « Remixer le Québec ». C'était pour nous guider vers cette deuxième demi-heure qui est consacrée à autre chose. Là, on s'en va ailleurs, même si, mon Dieu, que le sujet... était chaud, vous auriez dû entendre tout le monde durant les pubs. Ça y allait par là. Aujourd'hui, donc, je reprends le début d'une série sans nom qui présente l'histoire d'une famille montréalaise au drôle de nom. Une histoire qui sera véridique et vérifiable jusqu'à ce que l'imaginaire perçoive des images qui jouent avec le cerveau et les doigts de l'autrice, ça c'est moi, puisque j'ai dû imaginer les rencontres, certains endroits. Il s'agit de ma famille et de celle d'Alexis, mon fils, qui vient faire son tour ici des fois. Ben oui.
On lui dit bonjour.
Il est où? On ne sait pas. Mais donc, mes grands-parents maternels et paternels ont commencé à fonder leur famille à Montréal au début du 20e siècle. De toutes les familles que moi je connais, en tout cas, la nôtre est celle qui est sur l'île depuis le plus longtemps. Et moi, je suis fière de ça. Ça doit être pour ça que j'ai un grand engouement pour ma ville, même si elle est pleine de cônes, puis, mon Dieu, les cônes. D'ailleurs, mes parents et leurs parents apparaissent dans l'exposition permanente sous les voûtes du musée Pointe-à-Calière, les amis, dans la section « Les bâtisseurs ». Oui. Même moi, là, ma petite moi est là-dedans. Voici donc, aujourd'hui, 29 septembre 2023, le retour de la série « Les chroniques d'une famille de Montréal au drôle de nom ».
Aujourd'hui déjà, aujourd'hui je sais, je prédis, rien n'est impossible, je le sais, même le passé est imprévisible.
L'histoire commence avec mon grand-père maternel. Il est né le 3 avril 1896 à Bedford, au Massachusetts, et gardera un accent tout au long de sa vie. À vrai dire, je ne me souviens pas trop l'avoir entendu parler finalement. Je l'ai plutôt entendu grommeler avec une voix grave. Toujours assis qu'il était sur sa chaise berçante en chaîne de Steel Mission, installée près de la fenêtre de la salle à manger de l'appartement de la rue Saint-Vallier dans Rosemont. Ce vieux monsieur aux cheveux denses et tout blancs portait toujours une chemise blanche ou des pantalons sans doute retenus par des bretelles. Sa famille faisait partie de ces 900 000 Canadiens-Français qui s'étaient installés en Nouvelle-Angleterre au 18e siècle d'abord pour les terres disponibles pour certains, mais aussi pour travailler dans les manufactures de Manchester ou Bedford ou encore Lowell. Dans cette région de la Nouvelle-Angleterre, certains panneaux publicitaires affichés sont ceux du concessionnaire Bilodeau ou du Waffle House Cormier. La marque des gens est restée là-bas, la marque des gens d'ici. Alfred a 18 ans en 1914. Les États-Unis ne sont pas encore impliqués dans la première guerre qui deviendra assez vite mondiale. Trop occupés dans le conflit à l'ouest, à la frontière du Mexique peut-être? Mais en 1916, les États-Unis décident de s'en mêler. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'Alfred émigre au Québec? Pourtant, l'enrôlement à cette guerre était volontaire aux États-Unis, tout comme ici jusqu'en 1917, où la conscription a été votée. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il est venu ici? Je ne sais pas. J'ai posé la question. Personne ne le sait. On ne connaît pas l'histoire. C'est ici que moi, j'imagine leur rencontre entre lui et Aurore. M'a fait plaisir à Béa. Aurore. Mettons que toi, Alfred, tu tentes de trouver un emploi là où Ferdinand Labrecque, ton futur beau-père, dirige un atelier, une entreprise, une shop. Tu parles anglais. Ça serait bon pour le commerce. Voilà, la table est mise. Vous ferez bientôt connaissance. Tu te présentes à la porte de la cour arrière de la maison de la rue Saint-André, là où habitent ton patron et sa famille. Ça, c'est ce que j'imagine. Il t'a dit que la clôture arrière, une haute cloison de planches de pruche, a une porte rouge sans bœuf et que tu ne pouvais pas la manquer. Tu dois porter un message à Mme Labrecque. Il tenait à ce que ce ne soit pas à la porte d'en avant. Un caprice de boss? La jeune Aurore porte son aide à Géraldine, qui étend du linge la bonne, à qui tu dois remettre le message. Mais Géraldine est, disons, prise dans le back house. Et c'est Aurore qui ouvre la porte. Tu es là, désinvolte et fanfaron. Mais à sa vue, tu deviens tout autre. Géraldine sort du cabanon, voit la scène et demande à Mademoiselle Aurore d'entrer prestement dans la maison. Le soir même, tu te rends dans la ruelle. une croqueuse de bonne idée que les Anglais avaient d'inclure dans les parties de la ville qu'ils ont investies des accès derrière les maisons. C'est ça que tu dis. Tu écoutes ce qui se passe derrière la porte rouge dans l'espoir d'entendre la voix d'Aurore. Deux visites suffisent pour que vous vous voyiez de nouveau. Tu casses maladroitement ton français et elle est charmée. Lors d'une énième rencontre clandestine, Ferdinand est témoin de la scène et se dit qu'il faudra bien qu'il surveille ce jeune et bel étalon. Il fera en sorte que le rôle du futur de sa cadette devienne essentiel à l'entreprise et que cela assure un bel avenir à sa fille. Tu as donc dorénavant la permission de lui faire la cour. Vous faites quelques tours du bloc, traversez les parcs aux alentours dans ce Montréal qui vit un essor impressionnant. Un chaperon vous suit derrière. Il se joint à vous au salon lorsqu'elle te joue une ritournelle au piano ou quand le gramophone est utilisé pour briser les silences intimidants. C'est une famille moderne. Il possède plusieurs disques de différents diamètres et on peut même entendre cette musique en vogue à l'époque. On entend une composition de Scott Joplin, un musicien afro-américain qui est l'un des principaux interprètes du ragtime, un genre musical qui a été extrêmement populaire entre 1897 et 1918, surtout aux États-Unis. Ce style deviendra bien sûr, on s'en doute, le précurseur du jazz. Mais c'est quand même en vogue ici. On n'est pas loin, Montréal des États-Unis, c'est tout près. En tout cas, maintenant plus qu'avant, mais bon. On revient à notre histoire. Il faut dire qu'il est beau, son Alfred. Il était beau, mon grand-père. Ses cheveux bien fournis et brillants et ses yeux d'un brun profond, presque noir, le distinguent des autres. Il a un air fier qui lui donne une allure de jeune premier. On aurait même pu le confondre au jeune Charlie Chaplin. Alfred, c'est Alfred Bonheur. B-O-N-O-Y-E-R. Il est le fils de François-Xavier Beaunoyer, B-E-A-U-N-O-Y-E-R, né à, attention, Saint-Libouère, et de Marie-Élisabeth Ruel, née à Saint-Fortuna, deux villages situés entre Saint-Hyacinthe et Victoriaville. On ne sait pas trop pourquoi, mais arrivé au Québec, il a fait modifier l'orthographe de son nom, encore, en Beaunoyer, B-O-N-N-O-Y-E-R, le nom que leur enfant porteront. C'est donc le 11 septembre 1916, dans ma famille, tout le monde se marie au mois de septembre. Il naît, c'est pas tout, en tout cas. Le 11 septembre 1916, à la nativité d'Hochelaga de Montréal, qu'Alfred Beaunoyer épouse Aurore Labrec, fille de Ferdinand Labrec et de Cordélia Cardin. Il y en a des airs là-dedans. Il a tout juste 20 ans. La jeune Aurore Labrec, elle, est née le 22 janvier 1898 à Saint-Bonaventure de Hopton, dans le comté de Drummond, d'où vient Ferdinand, tandis que Cordélia Cardin, sa mère, vient de Saint-Aimé de Massieuville, juste un peu plus à l'ouest. Mais j'ai fait mes recherches, puis ces deux villages-là du coin de pays, bien, c'est tout près de ceux des parents d'Alfred. Si on pouvait les interroger, ces gens-là, là, Seigneur. Donc, Saint-Bonaventure est un village développé près de l'eau. La rivière aux vaches, c'est cute, traverse la municipalité et poursuit son cours en direction de Saint-Épi-de-Guire et de Saint-François-du-Lac. Mais là, je vais parler de la noce. Ils sont tous magnifique. Le père d'Aurore est la personnification du patriarche. Il est majestueux, il est grand, il est fort. Son visage a des traits parfaits. Il est tellement beau, là. Ses yeux clairs aux paupières saillantes qu'il lèguera à sa progéniture ont dû séduire toutes les femmes, mais il a choisi la douce Cordelia Cardin. Elle a de grands yeux marrons qu'elle transmet à ses deux filles, dont ma grand-mère. La petite Aurore et sa tante, et sa fratrie même, arrivent plus tard à Montréal avec ses parents qui ont une vie aisée. J'aimerais ça chanter comme ça, mais c'est pas le cas. On vient d'entendre Eva Gauthier, qui est une franco-ontarienne, cantatrice et mezzo-soprano. Au long de sa carrière, elle chante et popularise des œuvres musicales de compositeurs contemporains célèbres qu'elle a connus en Europe. Je parle d'Éric Satie, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, c'est pas n'importe qui. Elle va les inviter à New York, où d'ailleurs elle va s'apprivoiser au jazz. Mais là, c'était pas ça. Hein. C'était au tout début de sa carrière qu'elle chantait un hymne qu'on connaît tous ici beaucoup. Vive la Canadienne. Mais là, je reviens à mon histoire. Donc, Aurore a 18 ans et elle remonte l'allée au bras de son père, fier et droit, pour aller rejoindre son futur mari. Elle est si belle en sa robe de bengaline blanche. Elle a noué ses cheveux, son long châtain foncé sous son long voile retenu par une couronne de fleurs, comme c'est la mode dans le style en vogue à l'époque. On parle de modern style, d'art nouveau. On dirait une belle dans une œuvre d'Alphonse Mucha. Une image du mariage apparaît sur nos réseaux et vous y remarquez, vous irez voir sur nos réseaux. Il faut aller sur nos réseaux. Vous allez voir la photo où tout le monde est très, très sérieux, comme dans toutes les photos de l'époque, peut-être à cause du temps de pause, hein, qui était interminable. Mais pour eux, ça s'est passé chez un photographe de la rue Guilford. J'ai plusieurs de ces photos, et puis moi, je suis fascinée par celle que j'ai mise, justement, dans le réseau, par l'une des invitées. Il y a une jeune femme d'environ 24 ans. Elle apparaît sur la photo dont je parle depuis tantôt. Et là se retrouvent 13 autres membres de la famille. 7 personnes sont debout derrière, avec au centre Ferdinand, devant la rangée des jeunes époux qui sont assis. La composition et la posture des gens est bien étudiée. Alfred est à droite, avec à ses côtés 2 jeunes adultes, peut-être sa sœur. Un autre beau jeune homme l'accompagne. Aurore est à sa droite, puis elle est là, l'inconnue énigmatique. À leurs pieds, 2 jeunes adolescents sont assis par terre dans une position décontractée. Elle est presque moderne, cette photo. Mon intrigante invitée a les cheveux noirs, courts et ébouriffés. Elle porte une robe de satin noir qui ressemble plus à un kimono que ce qui est porté par les autres femmes. C'est elle qui a le visage le plus clair et distinct de l'ensemble. Elle a l'air décidée et volontaire. Franchement, j'aurais voulu la connaître. Je voudrais en savoir plus sur elle. J'imagine dans les cabarets de l'époque à boire et à écouter des compositions contemporaines, dont celle de ce jeune pianiste.
Thank you.
On vient d'entendre Swan, une composition au tout début de la carrière de George Gershwin.
Aujourd'hui, je sais, je prédis.
Voilà, ce sont mes grands-parents maternels. Ils auront 6 enfants et ma mère en est la cadette. La suite, une autre fois. Eh oui, les filles, c'était la saga. On peut donc finir l'émission. Je vais juste annoncer quelques petites affaires avant qu'on passe à la fin. Il y a un bingo à CIBL. Suivez nos réseaux sociaux. Vous allez tout savoir, j'ai tout mis. La semaine prochaine, on a de la visite. On a Éric Goulet et David Marchand de Zouz. Ben Éric Goulet, c'était aussi les chiens, c'est Monsieur Mono. David Marchand, c'est Marchand Zouz puis Mon Doux Seigneur. C'est pas, tu sais, je veux dire, ils viennent de jaser, c'est deux générations qui viennent jaser musique. Et puis, je voulais remercier Gilles à la mise en onde, Ariane, Béa, Dorothée, France pour la visite. Puis là, je vous laisse aller, les filles. Qu'est-ce que... Il ressort de cette émission-là, là, qui est rempli.
Mais moi, je trouve que ce qui est ressorti de nos conversations hors onde, c'est vraiment que tout est lié au final, d'une certaine manière, que ce soit l'engagement, l'implication, la présence, mais aussi le système qu'il faut changer, tu sais. Puis que, au final, ça prend des espaces dans lesquels on peut se parler. Je pense que ça, il n'en existe pas assez.
Bien, c'est pour ça, Trait d'Union.
Bien, c'est ça que j'allais faire, là. J'allais plugger.
Oh non, je t'ai...
Trait d'Union offre ce genre d'espace, puis je pense qu'il en faudrait plus. Puis il en faudrait plus dans des espaces publics aussi, plus mainstream. J'aime beaucoup nos espaces publics communautaires, mais j'ai l'impression que des fois, nous, on vient d'un background social, tous un peu semblables, avec des mêmes référencements. Puis j'aimerais ça, moi, parler avec des personnes un peu controversées dans la vie, des fois, de ça.
Ouais, rendre ça plus accessible.
C'est
ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ce pont-là entre les générations. Hein. Moi, j'ai juste 23 ans, de pouvoir parler avec des gens d'expérience et tout ça, je trouve ça super... Je pense que c'est vraiment nécessaire dans notre société aujourd'hui de repenser ces ponts-là, d'avoir des lieux de discussion, puis de se retrouver.
Puis d'honorer ces lieux de discussion-là, parce que moi, je suis sur beaucoup d'instances consultatives et décisionnelles à l'UQAM, puis je peux faire une grosse critique parce que je ne veux pas, mais... je pense que des fois, c'est pris pour acquis plus que c'est utile.
Bien, il faut se décloisonner parce qu'on est tous là, entre nous. On se congratule de penser, d'avoir la belle pensée. Mais savoir qu'il faut changer le système, comme Dorothée le disait, parce que ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand j'ai vu la caricature de Godin ce matin, où... tout le monde, puis Maud Tadine, là, à François Legault, ces jours-ci, dans les journaux, à la télé, j'en reviens pas. J'ai dit, c'est quoi? Tu sais, on sait, depuis que moi, j'étais jeune, vous étiez pas née aucune. Ben France, oui. Vous étiez pas née, puis on se dit, mais les journaux sont achetés par le patronat, l'establishment et tout ça. Mais là, c'est même pas caché, c'est gros et en caractère gras, c'est épouvantable.
Moi, je dis souvent que mon rêve, c'est de voir le monde brûler pour pouvoir le voir se reconstruire.
Scorpion?
Je suis très scorpion. Je suis très, très scorpion.
Mais moi, c'est de revenir aussi sur le mot accessible. Est-ce qu'une instance est vraiment accessible? Je veux dire, si c'est vraiment accessible pour tous, c'est de revoir. En tout cas, c'est vraiment de redéfinir nos mots aussi, je pense, de se les approprier puis de prendre le temps de faire ça. C'est extrêmement nécessaire.
Je vous pose la question aux jeunes. Bon, vous n'écoutez plus la télé. Bon, est-ce qu'il y a des réseaux, y a-t-il un endroit où on peut vous rejoindre, vous parler? Pas juste la petite clique qui écoute telle affaire, puis toute petite clique, à tout le monde at large, là.
Mais moi, je défends un peu l'idée qu'on écoute la télé, on l'écoute juste plus comme vous l'écoutez. Moi, j'étais au Gémeaux il y a 2 semaines, là, comme journaliste, puis j'écris pour d'autres... pour d'autres médias, souvent sur la télé, mais je l'écoute via d'autres plateformes.
OK.
Puis j'écoute de la télé québécoise, là. Genre, je ne vais pas nommer des plateformes parce que ce n'est pas pertinent, mais il existe des plateformes, c'est juste qu'on l'écoute en différé.
Donc aujourd'hui, toi, tu parles des réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram.
Ouais, moi, je suis très Instagram et TikTok, mais j'écris pour des médias plus conventionnels, puis je parle de médias plus conventionnels, puis je pense que c'est un peu faux de dire que notre éditorial est 20-35, on n'écoute plus du tout la télé, je pense qu'on l'écoute juste différemment.
Et c'était dans mon reportage, j'ai rencontré une fille qui est dans la trentaine. Elle est très TikTok. Moi, je dois avouer que je n'y suis pas. Et non, quand elle m'a raconté son utilisation et tout ça, elle m'a dit, je me rends compte que sur TikTok, quand on a une information, elle sort en général 2, 3, 4 jours après dans les médias traditionnels, journaux, télévision, radio. TikTok est précurseur. Donc les jeunes, quand ça sort dans le débat public, ils l'ont déjà entendu.
Faut aller.
Mais c'est dommage parce que on en a parlé un peu, là, mais la loi C-18, mm-hmm. moi je trouve que c'est très dommage parce que je pense que beaucoup de jeunes s'informaient via des plateformes de médias plus conventionnels, via Instagram ou TikTok. TikTok, ça les touche pas. Mais c'est faux de dire que notre algorithme est construit pour consulter de la nouvelle communauté Instagram.
Tu peux rappeler c'est quoi cette loi?
La loi C-18, c'est la loi qui empêche les médias de publier sur les réseaux sociaux.
Ah oui, oui.
C'est belle, on est d'ailleurs...
Oui, mais c'est pour ça qu'on met tout sur nos réseaux. Puis il faut absolument aller sur nos réseaux, aimez-nous, abonnez-vous, s'il vous plaît, puis partagez
c'est
de grâce.
C'est quoi ton handle déjà, Louise?
Comment?
C'est quoi votre arrobas? C'est arrobas...
Trait d'union,
CBL. C'est pas... Ouais, c'est ça. Trait d'union, CBL. Ouais.
Mais moi, après, je pense que c'est important. Ce que j'ai trouvé très intéressant sur de quoi Ariane a parlé, c'est le fait aussi que comme, ben, peut-être qu'on fait les choses différemment, et je pense que c'est ça qu'il faut penser les choses différemment. Moi, je suis impliquée plus dans les milieux militants et tout ça, mais c'est beaucoup dans la culture d'usine, hein? Donc de revenir au papier, d'écrire, de partager des choses, d'être dans le concret. Donc oui, je suis pour les réseaux sociaux, je pense qu'on peut nous retrouver là aussi, mais je pense que c'est ces milieux-là concrets où on peut se retrouver, partager du matériel, c'est super important. Puis je pense que ça va être vraiment de réfléchir ensemble à comment faire différemment
d'ailleurs,
et sortir de ces sentiers-là.
Il y a une nouvelle émission assez belle sur les usines, je me suis plus du
nom,
mais qui va commencé il y a 2 semaines.
Ouais.
Fait que je vous invite à aller voir notre page de programmation.
En fait, on vous invite d'écouter CIBL du lundi au vendredi.
Dans votre livre.
Du matin, dans votre livre, tout le temps, partout.
Du matin au soir.
Non, manquez-nous pas, parce que je pense que c'est une radio qui, justement, essaie d'aller ailleurs puis de laisser la porte... Elle ouvre la porte à un grand...
Oui, puis tu sais, tu parlais de
la société.
La BEC, la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, travaille sur un projet présentement sur les usines. Fait que c'est aussi accessible pour des publics qui n'ont pas accès à ces sphères-là.
Puis c'est pas TikTok, c'est les Chinois, hein? C'est
le gouvernement chinois.
Mais moi, je suis plus sur TikTok. Chinois. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Je pense que c'est, en tout cas, de réfléchir différemment. Ouais.
Mais c'est juste...
Hey, on s'en va bientôt, là. Eh mon Dieu, c'est le silence!
C'est non, mais c'est juste parce que je sais pas, moi j'ai plein d'autres choses à dire. Mais...
Je sais ça, Ariane!
C'est juste que je regarde là, c'est que... j'ai pas le temps de déborder dans mon autre émission.
Hey, tu pourrais, ben oui. Ne manquez pas, justement, tout de suite après la nôtre.
C'est le palmarès.
Les propositions de Maurice.
Ouais.
Qui
très,
fait
très bonne.
Oui, cette émission est une reprise. Ben, c'est assez extraordinaire ce qu'il a à nous offrir. Et puis là, c'est vrai, là.
Mm-hmm.
Ça veut dire, allez-vous-en, les filles. Laissez la place aux autres.
Retrouvez-moi à 15h30 pour Sous le radar.
Oui, absolument. Faites-le. Puis bonne fin de semaine, tout le monde. Puis il fait beau. Je dis ça de même en passant.
De Bamako à la Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leïla, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CIBL 101.5.
Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
CIBEL, 40 años en el corazón de la cultura.
Cette émission est une reprise.